Thank you very much indeed.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Il s'agit de la mise à jour sur le programme TLD des variantes IDN. Nous avons une heure et nous avons beaucoup de matériel à passer en revue. Donc, nous allons répondre à des questions. Nous allons avoir quelques présentations, puis répondre à vos questions. Je vais demander aux personnes qui sont sur le panel de se présenter très brièvement pour savoir qui va nous parler. Oui, bonjour. Asmus Feitag, je travaille au standard Unicode depuis le début et on m'a demandé d'aider avec le projet RJA. Oui, je m'appelle Andrew Sullivan, je suis également un consultant sur ce projet et je suis donc un des rédacteurs de ce document. Je m'appelle Dennis Jennings. Je suis là pour aider et faciliter, modérer le programme. Francisco Arias, je suis membre du personnel de l'ICANN et je travaille à ce projet. Matt Yosef Gini, je travaille avec l'expérience des utilisateurs. Donc, nous avons à l'ordre du jour le premier item. Voilà, très bien. Donc, voilà notre agenda. Une mise à jour rapide du programme TLD des variantes IDN. Donc l'outil concernant les règles de la génération. Ensuite, nous avons le processus LGR pour la racine. Nous avons un compte-rendu de progrès sur l'expérience des utilisateurs. Et ensuite, vous aurez la possibilité d'aller poser des questions. Donc, nous avons donc sur l'Internet des informations supplémentaires, des documents qui sont sur le site web. Nous avons un aperçu du programme. Je vous encourage à le chercher, à cliquer sur ce lien et lire le document qui ne fait que deux pages, mais deux pages qui résument bien tout le programme. Il me semble que c'est écrit en termes simples que tout le monde peut comprendre, même si on n'est pas spécialiste de l'informatique. Donc ça vous donne un point de vue du programme. Donc au cœur du programme, vous avez les LGR, les règles LGR. On va parler beaucoup de cela, de racines, de variantes. Le programme actuellement a trois projets. Le premier, l'outil pour manipuler les règles. Projet 2. Le processus. Et les processus, on va parler en détail. Et le projet 6, concernant l'utilisation des utilisateurs. Donc, nous avons des chiffres qui sont un petit peu différents maintenant. Ce que nous avons fait, et nous espérons, dans le respect du calendrier, avoir terminé d'ici Beijing, nous avons plusieurs autres projets. Nous mettons en place le processus LGR pour le répertoire, pour les variantes, pour labels également, et nous avons des projets d'administration pour les procédures. Donc ça, c'est l'aperçu. Ensuite, nous aurons une présentation sur le 2, mais avant de faire cela, il y avait une note à l'ordre du jour, et nous en avons parlé. Il y a des commentaires possibles que vous pouvez effectuer. Donc, nous n'allons pas avoir une mise à jour détaillée, puisqu'on va encore discuter et avoir des commentaires publics à ce sujet. Donc, Francisco va nous parler un petit peu du processus. Oui, merci beaucoup, Denis. Donc avant de commencer, il y a un document important que vous pourriez utiliser pour mieux comprendre ce dont on parle, quel est le process, ce dont parle Dennis, et un document de procédure qui est le sujet principal. Nous avons des commentaires publics jusqu'à vendredi. Vous pouvez faire des commentaires publics. Donc, quel est l'objectif aujourd'hui? Nous avons des aspects mnémoniques dans le DNS. Ce n'est pas seulement les codes ASCII dont on parle, mais il y a des systèmes de lecture qui sont reconnus par les utilisateurs. Il faut garder à l'esprit que tous les labels et étiquettes ne sont pas valides. Il y a des problèmes de sécurité qui se posent, des problèmes techniques. Il y a d'autres règles qui existent par rapport à la racine, pour établir la racine. Donc, nous allons revenir là-dessus. Et il faut garder à l'esprit que les TLD existants ne vont pas être affectés. C'est seulement pour les nouveaux TLD. Le process a quatre objectifs. L'utilité, le caractère utile, pouvoir utiliser ces TLD, pouvoir couvrir donc quelque chose de large, donc pour que beaucoup puissent être soutenus par ces processus. Ça ne doit pas être arbitraire. C'est en ce qui concerne les processus eux-mêmes. On peut évaluer les points spécifiques des règles LGR. Il y a des principes qui sont décrits dans un document de l'ICANN et par le Conseil de l'Internet, une entité qui donc règle les problèmes techniques. Il y a un ensemble de principes qui sont très importants, et je ne veux pas entrer dans les détails trop techniques. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder cela par vous-même, mais en général, je dirais que la longévité, c'est la stabilité Unicode dont on parle. Il y a plusieurs versions de l'Unicode. Donc, l'Unicode est toujours très utilisé. Donc, nous voyons ici, à ce point, l'aspect d'utilisation, l'aspect d'inclusion. Et donc, cela doit limiter l'aspect malveillant, les utilisations malveillantes. D'autres principes intéressants, c'est ce qui guide un petit peu la plupart des débats que nous avons ici. Si on peut avoir des doutes sur l'inclusion de tout code, eh bien, il ne faut pas utiliser de point code dans le répertoire. C'est un principe très important, essayer de limiter l'utilisation de ces points code. Donc, faire plutôt preuve de prudence. Un autre principe intéressant ici, et je ne peux pas tout couvrir, c'est le principe non seulement de prévisionnel de stabilité, mais également les lettres qui sont utilisées pour rédiger les TLD. Donc il y a une spécification pour les TLD qui doivent être composés de lettres. Donc l'intention ici, c'est d'essayer de suivre cet esprit, l'esprit de cette spécification dans le cadre des standards IDN. Nous avons ici un processus proposé en deux étages. Deux étapes, pardon, pour les règles de génération concernant la racine et les IDN. Les règles de génération sont plus larges que les IDN. Nous avons des règles pour les domaines internationalisés, pour les caractères ASCII, les CCTLD peuvent avoir des caractères ASCII. C'est également une LGR, une règle de génération de label. Donc, en rapport avec l'IDN, pour le processus, il y a un petit problème. Non, c'est bon, le transparent est bon. Il n'y a pas de problème. Vous l'avez donc à l'écran et vous avez donc deux différents types de panels, primaire et secondaire. Chacun des panels gère un script. Pour l'arabe, par exemple, vous avez un panel pour le latin, pour le cyrillique. Et tout... Pour tous ces alphabets, il y a une sous-catégorie du RGR, du LGR, et vous avez un panneau secondaire qui prend en compte la proposition évaluée dans un contexte plus large et qui intègre les différentes propositions des panneaux primaires et qui produit des versions du LGR. Ces processus itératifs donc utilisent les nouvelles propositions pour savoir quoi ajouter à la racine, et cela s'applique à l'inclusion de nouveaux scripts, mais également à la maintenance des répertoires. Étant donné que les scripts sont en rapport avec les langues humaines, elles sont très dynamiques. Et ils évoluent beaucoup, donc on doit être en mesure de pouvoir utiliser et rajouter de nouveaux termes dans les scripts. Donc, un autre point important à ajouter, c'est que ces décisions sont unanimes. Chaque membre du panel primaire doit être d'accord pour ce qui est de la proposition. Et les deux panels doivent être en accord également pour que cela soit accepté en tant que LGR. Donc, le panel primaire, eh bien, on utilise le format qui est défini par les autres projets, par les outils LGR, que Denis a déjà mentionné auparavant, et qui consisteront d'experts bénévoles pour des systèmes d'écriture différents. Et nous pouvons trouver des experts à l'ICANN s'il n'y en a pas assez dans un panel. Par exemple, un panel primaire pour un script, s'il n'y a pas assez d'expertise sur le DNS, on peut trouver quelqu'un qui peut aider. Le second panel ici à la base, nous voulons avoir des experts sur Unicode, DNS et des experts linguistique également, l'informatique et la linguistique allant main dans la main. Donc c'est très important que le second panel, panel secondaire, ne change pas les propositions du panel primaire. S'ils disent non, il faut qu'ils expliquent pourquoi, il faut qu'ils se justifient. Et il doit y avoir un dialogue entre les deux panels pour qu'ils puissent résoudre ce problème. Cela permet d'intégrer les différentes propositions et l'aspect principal, c'est la sécurité et la stabilité du DNS. Donc, le processus des LGR va décrire le répertoire et tout ce qui est éligible pourra être inclus dans la zone racine. Donc, c'est important. Cela a un impact sur les CCTLD et GTLD. Cela décrit, comme je l'ai dit, les points qui sont légitimes et décrit également les variances de tous ces points codes et également décrit les dispositions qui ont été données aux chaînes. Vous avez trois dispositions possibles. Et l'allocation donc de ces éléments, de ces chaînes de caractères. Ces chaînes de caractères jouent un rôle très important. L'allocation doit être possible, ça doit être une chaîne de caractères qui puisse être affectée jusqu'à ce que le personne ayant déposé un dossier de nouveau TLD l'effectue. Donc, le panel secondaire peut délivrer une version du LGR racine s'ils ont de fortes raisons de croire qu'il n'y aura pas d'aspect doublon entre le principal répertoire et ils peuvent dire que ça va d'avoir la première version du LGR. Ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous avons un groupe de bénévoles, nous avons des consultants experts qui ont été engagés. Michael n'est pas ici, ils ne sont pas tous là dans l'équipe des bénévoles mondiaux, ils n'ont pas tous pu venir. Mais nous avons plusieurs versions, plusieurs ébauches de nos documents. Nous avons des commentaires publics, nous avons des réunions de visu à Los Angeles et à Toronto. Quoi d'autre? Au niveau du calendrier, nous allons avoir à la fin de novembre ces commentaires publics et d'ici mars, une version finale qui sera revue en avril à la réunion de Beijing. Donc, ceci conclut donc ma présentation. Merci beaucoup. Vous êtes en temps et en heure. Bienvenue à Steve. Steve, je vais vous passer le micro. Vous allez nous parler de l'expérience des utilisateurs. Je vais vous donner une mise à jour rapide d'un autre projet, le projet 6, pour examiner l'expérience des utilisateurs pour ces TLD variants actifs. Deux objectifs de l'étude, recommander des règles ou lignes de conduite en ce qui concerne l'opérationnel d'un TLD avec des variantes par rapport à l'utilisation de l'internaute dans quelques régions du monde qu'il soit. Et nous voulons également créer une référence utile pour former les développeurs d'applications à tous ces changements et toutes les personnes qui vont être donc affectées par ces mutations que nous avons vues sur les TLD variants. Donc nous avons pris une approche double. Nous allons produire deux rapports. Le premier est un rapport intérimaire sur trois problèmes. Premièrement, l'expérience du déploiement. Au deuxième niveau, par exemple, pour l'arabe et le chinois, pour le registre chinois, version chinoise simplifiée ou traditionnelle, deux versions. Donc, on veut voir quelle a été cette expérience de déploiement et voir ce qui peut fonctionner. Comme l'a mentionné Francisco auparavant, il y a des principes qui sont de véritables guides pour nous, pour les utilisateurs finaux, pour que ça soit utilisable. Donc cela va nous permettre de débattre et d'effectuer des recommandations. Nous devons identifier les impacts et les problèmes qui se posent pour les différents utilisateurs. En utilisant les communautés, cela va plus loin que la question des registres. Les utilisateurs finaux et les utilisateurs techniques, les développeurs, utilisent des outils de diagnostic, comme on le sait. Et le rapport intérimaire sera publié à la suite de Toronto. Donc ça, c'est un aperçu. Nous voulons vraiment engager un dialogue avec la communauté pour voir vraiment la question de principe qui se pose, le débat qui existe, avant de passer à des recommandations. Donc nous voulons renforcer un petit peu les arguments du dialogue. Donc voici l'envergure du travail. Sur la droite, vous pouvez voir label IDN, et au centre, vous avez les labels variants. Et vous avez les labels TLD. Donc vous voyez l'intersection qui existe entre ces cercles concentriques. Ça, c'est au premier niveau. Vous avez cela en pointillé. Nous reconnaissons également que pour les utilisateurs finaux, la distinction n'est pas toujours très claire. Donc, lorsque c'est approprié, nous avons élargi un petit peu la ligne pointillée rouge pour indiquer cela. Donc ça, c'est ce que vous voyez dans le rapport. C'est un petit peu une publicité pour que vous fassiez des commentaires. Donc à Prague, l'équipe a parlé à plusieurs registres de ces variantes et de leur mise en place au deuxième niveau. Et 7 de ces registres nous ont donné les résultats qui sont résumés ici. Donc ce qu'il faut garder à l'esprit et retenir de ce transparent, c'est que il y a des pratiques similaires et d'autres différentes. Les variantes sont traitées comme des ensembles dans leur cycle de vie par rapport au registre, et on limite le type de variance active. Donc il y a une limite mise au nombre d'activés, de variances activées. Donc il y a certaines différences entre le choix des variances et l'ensemble des variances, que ce soit l'arabe, le chinois, et Le dernier point que je voulais soulever, c'est qu'il n'y a pas de standard. Par exemple, pour les extensions, si votre registre a des solutions personnalisées, donc ça, c'est un résumé rapide. Il y a beaucoup plus de détails dans le rapport. Je vous invite véritablement à vous rendre. Sur la page web pour télécharger ce rapport et voir les différentes pratiques et qui dépassent le chinois et l'arabe. Donc nous avons également noté que le chinois simplifié traditionnel, deux études ont été faites de manière plus ou moins synchrone. Donc il y a des statistiques intéressantes que nous avons rassemblées et qui sont plus clairement expliquées dans le rapport. Donc je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. La deuxième partie du rapport, ce sont des principes pour les TLD variantes IDN actifs. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails qui sont trop techniques. Je ne vais pas passer tout en revue, mais dans le rapport, nous expliquons en détail ces exemples de minimalité, de sécurité, d'équivalence et de gérabilité. C'est pour cela que nous avons besoin de votre feedback concernant la facilité d'utilisation de ces nouveaux éléments. Donc, nous essayons de voir l'impact sur les utilisateurs de ces nouveaux IDN. Donc, on a travaillé avec des utilisateurs et on les a regroupés en trois catégories. Les utilisateurs finaux, donc vous pouvez imaginer des personnes qui connaissent bien la langue, le script, et des personnes qui sont plus ou moins expérimentées. Et pour la deuxième partie, vous avez des gérants, les personnes qui gèrent l'enregistrement des variantes. Et enfin, la communauté technique, les personnes qui doivent gérer la configuration, les diagnostics, les outils de diagnostic, le développement. Donc c'est une grande catégorie qui inclut les responsables de la sécurité, des développeurs. Et je veux vraiment attirer votre attention sur le fait que les variantes ont un impact fort. En général, on s'est concentré sur les utilisateurs des inscriptions, mais je voudrais souligner qu'il y a un impact important pour les utilisateurs finaux. Et nous expliquons plus cela dans le rapport que je vous conseille de lire. Donc, nous avons trois types d'utilisateurs et trois catégories. Donc, on a identifié 13 problèmes pour l'utilisation des variantes, 8 problèmes pour la gestion du registre, et 9 pour le problème des configurations de diagnostic. Donc la liste n'est pas complète et j'invite la communauté à commenter pour donner du feedback, effectuer un retour d'information, qu'est-ce qu'il y a qui manque, quels sont les problèmes qui ne sont pas bien représentés. Donc vraiment, nous invitons la communauté à se faire. Donc quelles seront les prochaines étapes? Il y aura des commentaires publics après la réunion de Toronto. Et nous demandons qu'il y ait des commentaires à ce sujet. Vous avez la liste de publipostage et vous avez les commentaires publics. Vous pouvez poster également. Donc, ça, c'est un petit peu une rapide mise à jour. Où en sommes-nous? Oui, c'est juste au bon moment, juste en temps et en heure. Est-ce qu'il y a un autre point? Donc, si on a quelques minutes supplémentaires, Marc peut parler d'un petit peu plus de ses problèmes sur les utilisateurs. Oui, je crois que ça serait utile. Donc, Marc, vous voulez dire quelques mots ? Marc, on vous donne quelques minutes pour vous exprimer. Oui, d'accord. Donc, voilà. Donc, oui, comme Steve le disait, nous avons identifié environ 30 différents problèmes qui se posaient, que nous avons regroupés en trois catégories. Donc, vous avez là sur l'utilisation des variantes, et ça montre un petit peu plus quels sont les problèmes que nous avons notés. Donc, ça ne vous donne pas tous les détails, évidemment. Le rapport vous donne plus de détails, et je vous conseille de vous y référer. Mais je vais simplement prendre quelques exemples sur cette longue liste et vous donner une idée un petit peu de ce que l'on peut trouver dans le rapport. Sur ce premier transparent, vous avez l'utilisation des variantes, l'utilisation par l'utilisateur final, également par tout utilisateur. Les bureaux d'enregistrement, les enregistrants, les personnes techniques qui jouent différents rôles. Et vous avez une deuxième liste concernant l'enregistrement d'un nom de domaine. Et la troisième partie, c'est la liste qui est en rapport avec des outils de configuration. Donc je sais que vous ne pouvez pas tout lire parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-dessus. Mais, par exemple, la recherche. Et c'est un engin de recherche, et lorsque je dis un engin de recherche, ça peut être l'engin de recherche, le moteur de recherche typique que nous utilisons sur l'Internet, mais ça peut être également ce que vous trouvez sur votre ordinateur. Donc, la recherche en général, si on ne connaît pas la variance. Si on recherche la première variante, il y a une variante numéro 2 et la recherche va trouver que la variante numéro 2 n'est pas à parier. Donc, il va y avoir un problème de mappage. Donc, pour les utilisateurs finaux, ça ne sera pas obligatoirement au même niveau. Il n'y aura pas une priorité une priorisation par niveau. Donc je continue sur ce point. Et nous avons d'une manière similaire un autre problème en rapport avec les logs, par exemple pour les forces de l'ordre, ou pour les personnes qui gèrent des serveurs, pour les personnes qui veulent voir les différentes variantes. Pour, par exemple, les forces de l'ordre, je veux voir les transactions. Donc, la variante 2 ou 3 ne va peut-être pas se présenter parce que le logiciel que j'utilise n'est pas prêt pour une variante. Donc, c'est un exemple de ce qui peut se dérouler si le on fait de la gestion de variantes qui n'existent pas encore dans notre écosystème. Peut-être qu'un dernier point, si nous utilisons la variante numéro 1 avec différents points code, eh bien, selon l'utilisateur, et pour l'utilisateur, ça devient complexe parce que les règles sont différentes. Donc, pourquoi je peux utiliser le point code numéro 1 au deuxième niveau, mais pas au premier niveau, et vice-versa. Donc, pour l'utilisateur, c'est véritablement un problème. C'est le type de problème que nous essayons de collecter dans notre recherche, dans notre analyse. 30 problèmes que nous avons rencontrés à peu près en ce qui concerne la gestion du système d'enregistrement. Il peut y en avoir plus, donc prenez cela en compte et effectuez des commentaires. Nous apprécions que vous lisiez le rapport, que vous fassiez des commentaires pour nous aider à faire notre travail. Ça va nous permettre de faire nos recommandations. Donc, c'est essentiel pour nous qu'on analyse ces problèmes et ces résultats. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Marc, de votre présentation. J'aimerais attirer votre attention sur le site web. Nous avons donc tout sur cette séance et les documents notamment qui sont téléchargeables en format PDF. C'est extrêmement important pour avoir plus d'informations. Nous avons le processus LGR qui est ici et le document sur l'utilisation des l'expérience des utilisateurs. Ce sont des documents importants et je vous les recommande. Moi, j'ai lu toutes les ébauches de ces documents. Ce sont des documents substantiels, importants. C'est des problèmes complexes et la complexité est un petit peu inquiétante. Mais les problèmes peuvent être encore plus complexes que l'on ne croyait. Donc, on a besoin de la communauté pour travailler à cela et pour essayer de trouver ensemble des solutions. On s'associe à la communauté, notamment lorsqu'il y a d'autres langues en jeu, lorsqu'on utilise Unicode. On a besoin vraiment, au niveau mondial, de toutes les personnes qui parlent d'autres langues, qui sont des spécialistes des IDN et qui ont quelque chose à dire sur ces noms de domaines internationalisés et sur ce nouveau système, notamment en ce qui concerne la racine. Donc, je vous remercie. Nous avons beaucoup de temps pour des questions. Nous avons fait rapidement les présentations. Donc, nous allons maintenant vous donner la possibilité de poser des questions. Vous avez 20 minutes pour poser des questions. J'attends à ce que quelqu'un ait le courage d'être le premier à aller au micro et je vois Edmund, que je connais, Edmund Chang, de Hong Kong. J'aimerais lancer le débat, en effet. Merci beaucoup à l'équipe pour la mise à jour. Et je sais que j'ai beaucoup parlé à l'équipe. J'ai travaillé à la LAC, j'ai travaillé au GNSO, donc je connais bien la situation. On a travaillé beaucoup pour les questions du monde asiatique. Donc, beaucoup de choses se déroulent en ce moment. Premièrement, j'aimerais dire, exprimer mon point de vue. J'ai félicité de l'enquête qui a été effectuée, cette équipe. Et je crois que c'est au Costa Rica que nous avons fait quelques ajustements. À Prague, nous avons vu des progrès. Et maintenant, il y a quelque chose qui est formé, un groupe qui est formé. Je crois que les deux panels, c'est un concept solide. Je crois qu'il faut le conserver. C'est une bonne approche. Et j'ai entendu vos débats de la semaine dernière et il me semble que nous sommes bien placés, que nous travaillons de manière productive. Et un des points que j'aimerais soulever dans ma perspective personnelle, c'est le fait que peut-être que ce n'est pas dans le domaine, c'est hors sujet peut-être un petit peu, mais la communauté applaudit l'ICANN pour ses IDN, pour ses nouveaux GTLD. Mais cela va créer, je pense, une plus grande urgence encore pour que ce travail soit effectué. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que lorsque l'on regarde les dossiers actuellement, il y en a 116, je crois, oui, demandes d'IDN provenant beaucoup d'Asie, pour le chinois, pour l'arabe, impactées fortement par votre travail. Donc, la question que j'aimerais poser, et pour toute la communauté, lorsqu'on va arriver à ce point, même si nous avons vraiment fait beaucoup de priorisation pour les IDN et le concept des IDN a été vraiment poussé par l'ICANN depuis longtemps, eh bien, j'aimerais savoir ce qui va se passer ensuite. Quelle est la prochaine étape? Donc, un dossier de demande chinois, on demande une variante, on est en haut de la liste, il y a un processus de délégation et il y a un process également pour un éventuel contentieux, pour d'éventuels problème. Donc, il y a beaucoup d'implications à ce niveau, surtout le processus. Et dans la présentation que j'ai vue, En ce moment même, on a vu l'expérience en Chine et à Taïwan, tout particulièrement à Taïwan, 18,4% des demandes vont vers les TLD variantes. Donc, ça fait beaucoup de demandes et de requêtes. Donc, avec la mise en place à ce moment-là, nous avons les IDN qui seront acceptés et les TLD chinois, et ça va présenter peut-être un dilemme et un problème. Donc, il me semble que l'équipe devrait se mettre en rapport avec un groupe de travail IDN et avec donc différents organismes. Il faut qu'il y ait plus de communication également avec le Conseil central, parce que lorsqu'on essaye de déléguer et de prendre des décisions sur tous ces ensembles de contentions, eh bien, c'est un travail qui va être absolument essentiel. Et j'aimerais donc, c'est la question que j'aimerais vous poser.
Merci beaucoup. Vous venez d'identifier un sujet qui me paraît clé et que nous connaissons. Et j'ai deux commentaires. On ne sait pas le nom de l'orateur. Premièrement, on fait des progrès très importants dans ce programme. Et puisqu'on a démontré notre progrès dans le rapport des études de cas et pour le programme des IDN, on l'adapte aux commentaires publics. Donc, ce que je voudrais dire, premièrement, puisqu'on s'adapte, est-ce qu'on va et qu'on va travailler aussi vite que possible pour assurer que ce travail soit fait. Cependant, peut-être vous sentirez que c'est pas assez rapide parce qu'on prend d'autres décisions. Et bien sûr, on a transmis cette inquiétude au groupe du directoire. C'est l'élément du directoire qui supervise cette activité à qui on l'a fait savoir. On ne sait pas très bien comment on va faire. On ne sait pas très bien quelle est la portée du programme. Notre travail est de vous donner des résultats selon notre programme. Andrew, tu veux dire quelque chose d'autre, Asmos? Je sais que ce n'est pas une réponse complète, mais on le sait. L'organisation sait quelle est la synchronicité, pour le dire de quelque sorte, de cette ligne temporelle. Vous voulez poser une question, monsieur? Oui, allez-y. Merci, Dennis. Je suis Eric Brenner-Williams. Au cas où vous ne me reconnaîtrez pas. Et Edmond et moi avons présenté ce problème à Paul et Peter lors de la réunion de New Delhi, de Nouvelle Delhi. Donc, pour ceux parmi vous qui n'étaient pas présents à l'époque, la gestion, la gérance l'a su depuis un bon moment et bien sûr, on doit continuer à travailler dessus. Mais Edmond ne me présente pas une inquiétude neuve. La gérance l'a su depuis longtemps. Merci. Oui, merci de ce commentaire. C'est Denise qui parle. Ce programme a bien sûr attiré l'attention d'ICANN sur ce problème à plusieurs reprises. Et particulièrement pendant cette réunion de Toronto. Du point de vue de ce programme, on vient de finir avec un programme et avec des obligations qu'on avait selon nos délais. Et bien sûr, on voudrait le marquer pour ICANN, mais ce n'est pas dans ma portée, ce n'est pas ma responsabilité, à moins qu'on me le demande, de traiter ce problème en ce moment et avec ce programme. Mais je sais que vous l'avez déjà manifesté. Oui, Andrew? C'est Andrew Sullivan. Je voulais simplement vous demander, puisque c'est vous deux qui avez manifesté ce problème, et puisqu'on a beaucoup de candidatures dans cette étape des candidatures pour les nouveaux GTLD. Du point de vue pratique, il me paraîtrait qu'on pourrait peut-être les observer et nous demander si on a un problème réel ou un problème potentiel pour essayer de les régler. Je ne sais pas très bien ce qu'on pourrait faire, mais la première question serait, est-ce qu'on aurait un problème réel ici? Il y a deux aspects séparés de ce projet. D'une part, on parle de se servir de points de code différents et on n'en a pas assez. Donc c'est un problème potentiel. C'est difficile de savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Si on a une collusion, peut-être qu'on va devoir le régler à ce point-là. Et puis d'autre part, on ne peut pas déléguer les variantes selon les règles actuelles. Et donc aucun de ces noms va avoir de variantes actives dans la zone racine jusqu'à ce que le projet sera complet. Donc, combien parmi ces applications ne veulent pas être ajoutées à la racine jusqu'à ce qu'elles aient de variantes actives? Est-ce que vous le savez exactement? Bonjour, c'est Edmond encore. Je pense que c'est exactement ça la question, et vous l'avez bien dit. Mais il s'agit aussi de déterminer l'ensemble contingent sans définir le fonctionnement de la variante dans la zone racine. On ne peut pas définir les ensembles contingents. En ce moment, le candidat doit déclarer ce que les variantes représentent, quelles sont les variantes. Mais si ce programme crée les règles qui pourraient générer ce genre d'étiquettes, on pourrait déterminer l'ensemble contingent. Parce que ce n'est pas directement contingent non plus. On pourrait avoir une situation où on a une variante, qu'elle soit bloquée ou pas, qui est similaire à une autre variante. Dans ces cas-là, ce serait très différent de décrire. Et au moins, pour la communauté chinoise, on pourrait fournir nos points de vue par rapport à ce qu'on pense que ce serait. Mais comme vous voyez dans les statistiques, et ceci porte sur votre deuxième déclaration, sans être actif dans la racine, ça porte atteinte de toute façon à la mise en place. Historiquement, les IDN ont déjà été attaqués il y a 12 ans par un lancement prématuré dans l'intérêt commercial. Je ne voudrais pas que ce soit encore la même histoire cette fois-ci et que les gens perdent leur confiance aux variantes parce qu'on ne peut pas intégrer les variantes IDN à la zone racine due au processus qu'on va mettre en place. Ce sera très, très mauvais pour les variantes IDN. Donc, si on considère ces deux problèmes ensemble, je n'ai pas de réponse concrète, mais on devrait peut-être penser, et je réfléchis simplement, on devrait trouver la façon de faire face aux problèmes qu'on a, particulièrement avec les variantes IDN. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais ce que je veux dire ici, et je souligne qu'on ne veut pas avoir d'échec dans la mise en place des IDN. Ça fait 13 ans que je travaille dessus et je veux que ça se fasse. Merci. Merci Edmond, dit Dennis, merci de tes commentaires. C'est pour cela qu'on va avancer aussi vite que possible, mais prudemment aussi dans ce programme. On a des tensions, bien sûr. Lorsqu'on met en œuvre la procédure, inévitablement, on aura la tension de former des panels rapidement parce que les gens le veulent et la formation d'un LGR partiel. Et l'idée de ce que ça pourrait donner des avantages aux personnes qui s'inscrivent premiers. Et c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre, sauf si on est aussi prudent que possible. Mais c'est vrai, on ne veut pas se tromper. Je m'excuse, j'aurais dû dire que j'espère que vous venez vous rapprocher du micro et vous annoncer au lieu de faire confiance à ma mémoire ou à ma prononciation de vos noms. Si vous avez des questions, rapprochez-vous du micro, dites-moi qui vous êtes pour qu'on ne me mette pas mal à l'aise encore une fois ou j'essaie de retrouver vos noms. Non, Edmond, je veux voir si on a d'autres personnes. Non, c'est bon, c'est bon. Eric, tu peux revenir? Non? Alors, Edmond, vas-y. Oui, monsieur, allez-y et annoncez votre nom, s'il vous plaît. Je suis Pura du Pakistan. Je voudrais remercier ICANN pour leur guide sur les IDN qu'ils nous fournissent de temps en temps, particulièrement pour les pays qui travaillent sur les IDN et qui procèdent sur les variantes IDN. Et je voudrais remercier aussi les équipes IDN qui ont donné leur soutien et leur support technique pour ces pays. J'ai deux questions. Donc la première, et c'est peut-être une partie de l'étude des cas, et cette équipe se réunit avec les experts des langues, et quel est le sens à le faire? C'est ça ma question. Et pour le cas des IDN, les experts linguistiques font partie des utilisateurs, n'est-ce pas? Et puis, on a des défis que l'équipe doit considérer. Pour nous, les données WIS sont très importantes. Donc, pour le cas des variantes IDN, les services WIS vont avoir quel impact? Merci. Merci. Andrew, tu voudrais essayer de répondre, dit Dennis, de donner des réponses. Alors, Andrew Sullivan, si j'ai bien compris tes questions, la première portait sur la formation des experts linguistiques et puis la deuxième question était si les résultats de ce projet vont réguler WIS. C'est ça? Je vois qu'ils hochent la tête. Tu confirmes que c'est tes questions, n'est-ce pas, Ram? C'est Denise. Oui, je suis Ram Mohan. Pour moi, la question était différente, en fait. À mon avis, il a demandé si on avait consulté des experts linguistiques au lieu de demander quelle était la formation des experts. C'était ça la première question. Et la deuxième était, quel était l'impact sur WIS des IDN? Pour moi, c'est ça ce que j'ai compris. Merci, Ram. Andrew Sullivan qui parle. Alors, par rapport à la première question et aux experts linguistiques pour ce projet, dans le projet 2.1, je ne vais pas parler de l'utilisation, mais bien sûr, on a travaillé avec des linguistes. Mais l'objectif de notre procédure n'était pas de donner du support à des langues particulières, mais de créer une procédure à travers laquelle on pourrait fournir ce support. Donc, si on a des linguistes, il est possible qu'on spécifie ces problèmes. Ce serait très bon d'avoir des gens qui connaissent l'écriture pertinente à chaque pays. C'est pourquoi on a une équipe de bénévoles qui est tellement grande et on a aussi des experts. Par rapport aux implications et aux impacts sur WIS, on a des impacts énormes parfois parce que le fait que WIS ne fonctionne pas sans ASCII, ça interrompt le protocole, n'est-ce pas? Mais on a un autre protocole et un autre projet de l'IDTF et d'ICANN en même temps pour essayer de, c'est pas abandonner WIS, mais c'est de créer un nouveau protocole qui, entre autres, pourra supporter l'internationalisation qu'on veut. C'est vrai, lorsqu'on a des données internationalisées, même que ce soit seulement les étiquettes, on pourrait voir les étiquettes IDN aujourd'hui et puis la forme parfaite de ces étiquettes. Peut-être personne ne peut s'en servir, donc c'est pas parfait, mais bon, il faut le faire. On pourrait avoir des coordonnées, des données de contact transcrites, parce que c'est ça qui importe. J'espère t'aider, peut-être l'étude d'utilisation. C'est Steve, prends la parole. Merci. Alors, pour le sondage des registres CCTLD par rapport aux réponses, on voit que CCTLD a reconnu ce problème. Donc, ils ont créé des solutions personnalisées pour aborder ce problème. Donc, si on a des solutions, on pourrait peut-être provoquer des problèmes dans l'avenir si on ne considère pas tout. Donc, dans l'IETF, il y a un groupe qui a été créé pour considérer quelle serait la prochaine génération de WIS. Mais je vous invite à participer au forum pour pouvoir manifester ces problèmes pour essayer de les régler ensemble. C'est un problème et on sait que la communauté travaille dessus. Merci. Bien. Je vous rassure, on a bien sûr demandé l'avis d'experts linguistiques dans l'étude des cas et on va bien sûr leur demander leur avis dans les panels pour qu'ils puissent répondre. Denise? Marc qui dit, je voulais ajouter que du point de vue des utilisateurs, dans le rapport de l'expérience des utilisateurs, l'IDN ne supporte pas les variantes, bien sûr. Donc je vous invite à lire ces documents, ces rapports et faire des commentaires si vous les trouvez incomplets. Merci Marc, dit Denise. En même temps, je voulais dire que le support pour les variantes IDN et pour les IDN n'existe presque pas. Donc, ce n'est pas simplement un problème de WIS, mais c'est un grand problème pour tous les IDN de ne pas pouvoir résoudre les variantes. Bonjour, je viens d'Afilia. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire par rapport à la préoccupation de tout le monde sur WIS et les internationalisations. Mais l'accréditation va aussi avoir un impact sur le processus, parce que c'est là on a les informations de contact, les coordonnées. Donc, si on ne donne pas du support à l'internationalisation avec WIS, WIS ne va pas être utile pour tout le monde. Donc, pour attaquer WIS, de notre point de vue, il faut qu'on attaque tout le système égalitaire. Donc, peut-être un bon exemple serait si vos contenus, vos informations appartiennent à l'internationalisation, mais vous ne pouvez pas atteindre ces coordonnées, vous allez devoir aller chercher le code ASCII. Mais si vous avez un problème de paquet de données, vous allez devoir attaquer le problème avec des données WIS. Parce que si on a certaines parties qui montrent WIS et des parties internationalisées qui se servent d'autres systèmes, vous allez avoir des problèmes de sécurité, de représentation, qui pourrait être pire que de ne pas supporter les organisations internationales. C'est ça mon commentaire. Je voulais que tout le monde le sache. Merci, Joseph, de ton commentaire. C'est une alerte très utile. On sait que c'est une petite partie du travail à faire. Il est l'heure de finir notre séance. Si on a davantage de questions, est-ce qu'on a plus de temps? Non, il faut qu'on abandonne la salle. Bien, il faut qu'on parte, dit Denis. Merci beaucoup, Edmond. Oui, vas-y. Merci, Denis et Edmond Chung. J'ai un petit commentaire, en fait. Je pense que Marc et Steve ont bien travaillé lorsqu'ils ont parlé des problèmes potentiels de la mise en place des variantes. Mais je voudrais être sûr que vous n'allez pas partir avec l'idée que c'est un processus très difficile. Ce sont des problèmes très compréhensifs, il me semble. Mais pour la prochaine étape, il faudrait identifier quelles sont les parties d'ICANN en termes de gestion de la racine, et puis c'est où qu'on devrait faire de la sensibilisation. Certains de ces points sont affectés à l'internationalisation des idées aussi. Donc j'espère que les gens ne vont pas penser qu'il y a trop de problèmes. On a des problèmes, mais on peut les résoudre, à mon avis. C'est la prochaine discussion. Et il faut qu'on avance, dit Dennis. Eric, merci, dit Eric. Je voudrais reprendre ce que Joseph et Edmond ont dit. À mon avis, WIS est hors portée. C'est un problème beaucoup plus difficile à résoudre par rapport aux variantes et des TLD et pour le mécanisme des données des enregistrants où qu'ils soient emplacés. Bien, merci. Alors, on n'a plus le temps. Je vous remercie tous, dit Dennis. Je vous prie encore une fois de faire passer ces rapports, ces documents à votre communauté, vos communautés linguistiques, et selon l'écriture, ils sont ouverts aux commentaires et on doit faire de cela un effort global. Merci.